Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VO Afrique. Et comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont en ligne pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. J'ai salué Amine Birouk en direct depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous également, Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Donc, on va retrouver Jules d'ici là, mais en attendant, direction donc Boïkon au Bénin pour retrouver Élisée Nkpatine. Élisée, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bienvenue au Bénin.
Je ne sais pas si on a Amdine on a Amdine Sia Columbus dans l'Ohio, ici aux États-Unis. Mais dis donc, comme Michel Joseph. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence dans Sporama de ce lundi 11 mars 2024, la Basketball Africa League saison 4 qui a démarré ce week-end. La défaite de Francis Ngannou pour sa deuxième sortie dans la boxe anglaise. Le Burkina Faso qui a un nouveau sélectionneur. Le tirage au sort prévu demain pour les matchs interclubs des compétitions africaines. Et bien évidemment les Jeux africains qui ont cours présentement à Accra au Ghana. Merci à tous en tout cas de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute de Sporama. Balle au panier donc pour commencer avec la quatrième saison de la Basketball Africa League. Entendez, Ligue africaine de basketball qui s'est ouverte avec les matchs de la conférence Kalahari qui se dispute à la Sandbet Arena de Pretoria, c'est en Afrique du Sud. Amine, je commence par vous. Ça commence très bien pour les Marocains de FUS, 2 victoires en 2 matchs.
Et c'est pourtant paradoxal, puisqu'au même moment, l'équipe nationale de basketball était piteusement sortie au tour préliminaire de l'Afrobasket contre la Libye. Mais il est vrai que cette équipe du FUS a pu, au prix de 1000 batailles depuis le tour qualificatif, se faire les dents dans la compétition. Et contre Petro Atlético, on a vu une équipe qui a dominé son sujet à partir du premier quart-temps. Le FUS a gagné les 3 premiers quart-temps. Il s'est incliné que de 2 points dans la dernière manche, avec notamment 2 bons joueurs américains, 1 joueur malien dans la raquette et puis des joueurs de complément marocains, notamment le très expérimenté Abdelhakim Zouita, ex-joueur de l'association sportive de Salé, qui sait déjà ce que c'est que gagner la Champions League africaine avec le club marocain en 2017. Il s'est aussi, disputé de nombreuses batailles avec l'équipe du Maroc, qui avait terminé d'ailleurs 4e de l'Afrobasket en 2017. C'est d'ailleurs le sélectionneur de cette équipe qui s'occupe en charge du FUS, savoir Saïd Bouzidi. Il a porté sa science du jeu et on l'a vu lors de cette première sortie, alors qu'on ne donnait pas très cher des chances du FUS. Il y a eu ensuite une deuxième victoire sur tapis vert face au champion du Burundi et ça semble aller dans le bon sens pour le club marocain qui va devoir se coltiner demain les représentants sud-africains. Une victoire mettrait le FUS en ballottage très favorable pour le tour final à Kigali au Rwanda.
Bien évidemment. En attendant, Élisée, les Angolais de Petro de Luanda, eux, se sont relancés après leur victoire 188 devant le club hôte, les Cape Town Tigers.
Et bien évidemment, avec le star Mnaise que nous connaissons tous, qui déjà dans cette formation depuis des années, l'expérimenté, qui n'a pas pu faire grand-chose face aux Marocains de FUS, qui les a battus lors de leur première sortie 82-73. Donc, lors de la seconde rencontre, il faudra réagir et c'est chose faite puisque ces Angolais ont battu, bien évidemment, le club hôte, comme vous venez de le dire, 100-88. Donc, une troisième rencontre qui visiblement n'aura pas lieu puisque l'équipe burundaise de Dynamo a été disqualifiée tout simplement puisque le club a refusé de porter les maillots griffés. Visite Rwanda, vous imaginez quand la politique se mêle du sport, ça ne sent pas bien. Donc vraisemblablement les Angolais auront 2 victoires et espérer se qualifier pour le tour final qui aura lieu en mai prochain du côté de Kigali. Donc on se tire une phase encore vers une opposition entre Marocains et Angolais.
La rencontre entre le Dynamo Basketball Club du Burundi et FUS Rabat n'a pas eu lieu, comme le disait Élisée. Dynamo Basketball Club a déclaré forfait parce que les autorités burundaises, il faut le rappeler, refusent que leur équipe porte les maillots où s'est inscrit Visite Rwanda, sponsor officiel de la compétition. Et en réaction, dans un communiqué publié sur son compte Twitter, le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall, parle d'un refus de se conformer aux règles de la Ligue concernant les maillots et les uniformes. Amdine Sy, on a pourtant vu samedi une belle équipe de Dynamo qui a même battu les Cape Town Tigers 86-73.
Tout à fait, Yacouba. Moi, je me demande le comportement, pourquoi, comment on peut se comporter ainsi dans une compétition aussi importante que la balle. Moi, lorsque j'ai appris cette information, je me suis dit que le Dynamo s'est sans doute tiré une balle dans le pied. C'est parce que il faut se conformer aux exigences. Il faut se conformer aux exigences, surtout dans ces genres de compétition. Pour sa première participation, le Dynamo avait quand même réussi un coup de maître hein, en dominant quand même cette équipe. Mais malheureusement, ils n'ont pas su gérer leur succès puisque la politique s'est mêlée. Puisque battre le pays au 86 à 73, le Captain, on l'a vu, c'est sa troisième participation. Le Dynamo, les Burundais, c'est leur première participation. Ils viennent pour leur première sortie, il s'impose de fort belle manière devant l'équipe du pays hôte. Après, ils doivent jouer contre qui? Le deuxième match contre Fils du Maroc, c'était le choc attendu entre les deux leaders, puisque après la première journée, c'était les deux leaders. Et ils évoquent cette histoire de publicité de Rwanda, la politique, c'est vraiment dommage. Mais je comprends aussi l'attitude des responsables de la balle qui ont disqualifié purement, simplement cette équipe du Dynamo. Cela va fausser quand même cette compétition, puisque on avait initié, il y avait deux conférences. C'est la troisième conférence, mais les Burundais ont tout faussé. C'est vraiment dommage, mais ainsi va la vie, Yakuba.
Bien évidemment, ainsi va la vie. Les rencontres de cette conférence Kalahari vont s'achever, je le rappelle, le 17 mars. Et les deux premiers se qualifieront pour les playoffs et le meilleur troisième va espérer accrocher l'une des deux meilleures places de troisième pour les qualifications donc aux playoffs hein, qui vont se dérouler du côté de Kigali. Élysée le disait. Et justement, Élysée, toujours en basketball, l'Angola va abriter le prochain Afrobasket senior masculin après 89, 99 et 2007.
Ouais, c'est et durant ces trois éditions, Yakuba est bien. Et l'Angola l'a toujours emporté. Et donc, vous imaginez la quatrième fois à domicile, ça s'annonce donc épique. Et puisque l'Angola ne, ah, c'est vrai que on peut dire c'est une grande nation de basketball, mais depuis un certain moment, eh bien, il y a la Tunisie, le Sénégal qui domine bien sûr cette discipline sur le continent. Donc, la quatrième fois que l'Angola va abriter cette compétition, cette grande compétition, 18 ans après la dernière à domicile, donc vous imaginez, c'est une grande joie d'organiser une si grande compétition de basketball sur le continent. L'Angola, avec ses clauses, le Petro Atletico au niveau de la balle, l'Angola, la sélection nationale, quand même, va vouloir quand même essayer d'aller chercher un nouveau titre. Mais ça s'annonce compliqué, comme je l'ai dit, puisque en face, il y a la grande sélection tunisienne, il y a aussi le Nigeria, et n'oublions pas aussi le Sénégal.
Il a remporté en 2019 donc les Jeux africains avec les étalons U20. Il a également été intérimaire donc de.
Et donc, vous l'avez compris, on entendait ici Philippe Bationo, c'est un journaliste sportif burkinabé au quotidien et à l'étalon.net. Et justement, Philippe Bationo qui nous sert hein, de point de transition pour parler de football. Et on commence par le Burkina Faso où Brahma Traoré est le nouveau sélectionneur des étalons. Le technicien burkinabé remplace le français Hubert Velut, dont le contrat n'a pas été renouvelé. Après plusieurs expériences, nous avons pensé qu'il était temps maintenant de faire confiance à un entraîneur national. C'est ce qu'a déclaré le président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé. On va réécouter hein, Philippe Bationo, je rappelle, journaliste sportif au journal Le Quotidien et à l'étalon.net, joint depuis Ouagadougou.
Il a remporté en 2019 donc les Jeux africains avec les étalons U20. Il a également été intérimaire donc de Kamou Malo lorsque Kamou Malo donc n'a pas été prolongé à l'issue de la CAN au Cameroun. D'un autre côté, Brahma Traoré qui a une longue expérience car il a été l'adjoint déjà de trois sélectionneurs, notamment Didier Northo et plus récemment Paul Puit. Il a été annoncé donc qu'on veut créer un projet à long terme avec autour de Brahma Traoré, à qui donc plusieurs objectifs ont été assignés, notamment se qualifier pour la Coupe du Monde, se qualifier également pour la CAN, mais aussi et surtout construire une équipe compétitive, rajeunir l'équipe et surtout instaurer la discipline dans cette équipe des étalons quand on sait que le vestiaire est plus ou moins divisé avec des clans et également on sait qu'il y avait une certaine indiscipline qui se s'était installé donc dans cette équipe avec des joueurs qui arrivent en retard lors des regroupements et tout ça. Et donc, il va falloir remettre cette équipe-là sur les pas. Et le nouveau sélectionneur s'est engagé. Il a dit que son premier chantier, c'était donc de ramener la discipline et surtout d'avoir un discours franc avec les joueurs et travailler avec ceux qui sont prêts à travailler avec lui.
Philippe Bathelot, journaliste sportif au journal Le Quotidien et à l'étalon.net, c'est à Ouagadougou. Au Cameroun, Rigobert Song n'a pas vu son contrat renouvelé. En Algérie, Belmadi a été débarqué. Et pendant qu'au Sénégal, Aliou Cissé a été prolongé. Nous relançons donc le débat sur les coachs locaux ou expatriés. Jules, je commence par vous. Déjà, bonsoir. Ça marche pour certains, visiblement, d'avoir des coachs locaux, mais pas pour tous.
Oui, mais il faut dire que ça, c'est un débat ancien, mais qui, pour ma part, n'est pas pertinent. Dans la mesure où beaucoup d'entraîneurs, de sélectionneurs, parce qu'il faut parler des sélectionneurs locaux, ont donné des résultats positifs dans leurs pays respectifs. Et très récemment, on connaît l'effet Faye avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais avant lui, on a eu Eguavoene et Kechi pour le Nigeria dominateur dans les années 90 et 2010. Jean-Paul Akono au Cameroun qui a gagné les Jeux Olympiques avec le Cameroun, Deto, et Mbouma et Tamé Maier en 2000. Et surtout l'Égyptien Cheata, triple champion d'Afrique. Avec la génération Abou Treika et maintenant Aliou Cissé et Rigiani. Donc vraiment, on ne peut pas cracher sur les entraîneurs locaux qui donnent l'exemple. En ce qui concerne Rigobert Song, il faut dire qu'il n'était pas dans un environnement favorable. Mais sinon, si on regarde les résultats crus et qu'il a obtenus à partir de son arrivée en équipe nationale, ils sont plus positifs que négatifs. Rigo a trouvé une équipe nationale qui était absente de la Coupe du Monde en Russie en 2018. Il a qualifié en 2022 face à un mastodonte africain. Et de même, le mondial qatari qu'il a joué est au niveau statistique un des plus réussis de l'équipe nationale du Cameroun en dehors de ses exploits qui ont été rares. Bon, alors là, l'équipe nationale du Cameroun a été qualifiable jusqu'à la dernière journée, a battu le Brésil et surtout le coaching gagnant de Rigo n'a pas manqué d'être noté en remontant des 3-1 contre la Serbie et en faisant entrer un joueur qui provoque le but de la victoire contre le Brésil. Mais il faut dire que il y a des gens qui sont comme cela, qui arrivent au mauvais moment dans une équipe. Je crois qu'il aura le temps de rebondir.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite ou encore c'est tout le bien qu'on souhaite justement à Rigobert Song. Alors Amdine, le Sénégal fait partie des modèles de réussite quand même de ses sélectionneurs nationaux. Jules l'a mentionné tout à l'heure. Pourquoi ça marche selon vous?
Bon, ça marche parce que je pense qu'il y a la stabilité. Il y a la stabilité puisque Aliou Cissé a duré au niveau de cette sélection, puisqu'il est arrivé le 15 mars 2015. Il a remplacé un certain Alain Giresse. Mais je l'avais dit dans une émission, pour qu'un sélectionneur reste en place, il faut qu'il y ait des résultats. Puisque Aliou Cissé, ce n'est pas ces races qui ont laissé à la tête de cette équipe nationale du Sénégal. Ce sont ses résultats. Puisque lorsqu'il est arrivé en 2015, depuis 2004, après la génération 2002 qui était allée en finale en 2002 à Bamako. Il y a eu l'arrivée de Guy Séphan en 2004. On s'est arrêté en quart de finale, éliminé par le pays organisateur, la Tunisie, à Rades, avec le brouillard de Rades. Ensuite, en 2006, il y avait un duo intérimaire, Abdoulaye Sarr et Amara Traoré. On s'était qualifié en demi-finale, mais c'était par miracle, puisque en match de poule, le Sénégal n'avait gagné qu'un seul match et deux défaites. C'est comme ce que la Côte d'Ivoire a fait cette année. Ensuite, en 2008, premier tour, éliminé au premier tour avec Henri Caspedra, qui a quitté le navire en pleine tempête. Il a quitté après le deuxième match, après une défaite, il s'en est allé. Lamine Diaye a assuré l'intérim. Ensuite, on ne s'est pas qualifié en 2010 en Afrique du Sud. En 2012, Amara Traoré est arrivé. 3 matchs, 3 défaites. On n'est pas sorti du premier tour. Giresse, même chose, on n'est pas sorti du premier tour. Aliou Cissé arrive, on part en quart de finale, éliminé par le Cameroun à la série de tirs au but. Ensuite,
en 2019, finale battue par l'Algérie. En 2021, finale gagnée. Donc, ce sont ces résultats. Il a aligné à deux Coupes du Monde, d'affilée, qualification pour deux Coupes du Monde. C'est pourquoi j'ai aimé vraiment l'attitude des responsables du football sénégalais, parce que c'est pour la première fois après une compétition. Ils ont agi en responsable et ils ont choisi la stabilité, non pas aller à l'aventure. C'est pourquoi ils ont confirmé à l'UCC. Je pense que ce sont ces résultats qui déterminent vraiment la présence ou le contrat d'un sélectionneur, quelle que soit sa nationalité, qu'il soit blanc, noir ou jaune. Il faut qu'il y ait des résultats, Yacouba.
Merci beaucoup, Amdine Sy, au passage, hein, pour ce cours d'histoire sur le football sénégalais, en tout cas sur la sélection sénégalaise. Alors, Amine, Djamel Belmadi, même hein, récemment critiqué pour ses résultats à la récente CAN, fait aussi plus ou moins l'unanimité. Et là aussi, désormais, il pourra compter sur un attaquant de poids, Brahim Diaz.
On parlait de Walid Regragui, non de Djamel Belmadi.
Pardon, Walid Regragui, bien évidemment.
Et Walid Regragui a perdu un peu de son crédit, mais... Il s'est relancé avec cette affaire Brahim Diaz. La presse espagnole a officiellement annoncé que ce dernier défendrait les couleurs du Maroc et répondrait à la convocation, à la liste du sélectionneur programmée pour jeudi prochain. Il y a eu bien évidemment une controverse de l'autre côté du détroit de Gibraltar par rapport au manque, je dirais, d'intérêt du sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, qui a pourtant eu Brahim Diaz dans les catégories de jeunes. Il l'a appelé à une vingtaine de fois en sélection espoir. Et visiblement, le courant ne passe pas entre les deux parties. Brahim Diaz a attendu une marque de considération, comme l'avait fait la Fédération espagnole de football avec d'autres joueurs, d'autres prodiges, à l'exemple de Lamine Yamal. Ceci n'est pas arrivé, contrairement à la partie marocaine, qui a dressé son plan de bataille, qui a minutieusement, méthodiquement réussi à convaincre le joueur, à convaincre son entourage sur la base d'un projet sportif, parce qu'aujourd'hui le Maroc ne veut pas s'arrêter à l'exploit de la Coupe du Monde 2022, il ne veut pas s'arrêter aussi sur le goût amer de l'échec de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres échéances pour pouvoir se relancer, à savoir la CAN au Maroc en 2025, la prochaine Coupe du Monde au Canada, aux États-Unis, au Mexique un an plus tard, et surtout la Coupe du Monde 2030. Et sur cette base aujourd'hui, Brahim Diaz est un peu dans le cœur du projet aux côtés de joueurs de moins de 25 ans comme Achraf Hakimi et d'autres joueurs qui vont venir en équipe nationale à partir des JO de Paris 2024. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on attend juste l'annonce du joueur. Elle se fera sur les réseaux sociaux. Parmi les indices dont je dispose, il y a un voyage express du président de la Fédération marocaine de football ce week-end. Des photos qui ont filtré et ces photos-là sont avérées, ce n'est pas des fakes. Et visiblement, tout est bien qui finira bien pour Brahim Diaz et le Maroc.
Tout est bien qui finira bien aussi hein, pour Brahim Diaz et le Maroc. Vous suivez Sporama sur VOA Afrique. Nous revenons dans quelques secondes. Demain a lieu le tirage au sort pour les quarts de finale des compétitions interclubs de la CAF. Et pour rappel, en Ligue des champions, les 8 qualifiés pour les quarts ont été répartis en 2 pots pour le tirage. Le pot 1 comprend Mamelodi Sundowns de l'Afrique du Sud, l'ASEC Mimosa d'Abidjan, le Petro de Luanda d'Angola, Al Ahly d'Égypte, tous arrivés en tête de leur groupe. Et le pot 2 rassemble les joueurs arrivés en deuxième position, à savoir le tout-puissant Mazembe de la RDC, Simba Sport de Tanzanie, l'Espérance Sportive de Tunis, de la Tunisie bien sûr, et les Young Africans de la Tanzanie. Jules, on va sans doute avoir de grandes rencontres en cas où vu bien sûr des deux pots.
C'est le cas de le dire, parce que déjà dans le premier pot, quand on retrouve le super champion africain, le Mamelodi, et de l'autre côté, Al Ahly qui a fait sembler des grands à la Coupe du Monde des clubs, et on se dit déjà qu'on est en bonne compagnie. Et si on y a aussi le Petro Sport de Luanda qui est invaincu avec 3 victoires et 3 nuls, 0 défaite, aucun but encaissé. Et alors la tête d'Abidjan qui vient compléter ce quartet se trouve réellement dans le bon pot. Le deuxième chapeau est tout aussi remarquable. Mazembe, c'est quand même un champion d'Afrique qui se reconfirme. L'Espérance de Tunis est également. Simba a fini très fort, notamment son taux nutrient 6-0 de la dernière rencontre. Et nous retrouvons les équipes émergentes de Tanzanie à côté du Simba, le Young African. Donc, les affiches des quarts de finale seront forcément alléchantes.
Alors, Amdine, il y a des habitués, Jules le disait tout à l'heure, mais il y a aussi des novices aux longues dents, il faut le reconnaître.
Oui, vous n'avez pas cette raison. Si on regarde les deux pots, vraiment, moi, je m'attends à des affiches alléchantes pour ces quarts de finale. Comme vous le dites, hein, Simba vraiment a fini de montrer que il n'a rien envié aux grosses pointures du football africain. C'est le cas aussi de Ying Africa, mais à côté aussi, on retrouve l'ASEC d'Abidjan qui est revenu très fort. L'ASEC a eu à dominer le football africain par moment avec la formation les jeunes de Jean-Marc Guillou. C'est là-bas que sont passés beaucoup de joueurs petits de talent de la génération des Drogba. Donc les Yaya Touré sont passés par là-bas. Donc vraiment, on a de bons clubs pour ces quarts de finale. J'attends le tirage au sort demain avec impatience, Yacouba.
En Coupe CAF, le pot 1 va inclure les premiers de chaque groupe également, l'USM Alger tenant du titre, la Renaissance Sportive de Berkane, double vainqueur de la compétition, le Zamalek d'Égypte et Dream FC du Ghana. Et le pot 2 regroupe les équipes classées deuxièmes dans leurs groupes respectifs, Futur FC d'Égypte, Abu Salem de la Libye, Rivers United du Nigeria et le Stade Malien du Bamako. Amine, là aussi on peut rêver de belles rencontres.
On peut rêver de belles rencontres et les doubles tenants du titre en 2020 et 2022. La Renaissance Sportive de Berkane partira avec l'avantage de disputer le match retour à domicile. L'objectif, c'est de pouvoir peut-être éviter une des deux équipes d'Afrique du Nord, Futures, qui a commencé à faire un grand pas en avant, qui a beaucoup progressé par rapport à la saison dernière. Abu Salem, c'est un peu la révélation de cette phase de groupe. Donc, visiblement, on pourrait lorgner du côté du club orange sur Rivers United du Nigeria. Mais il ne faut pas oublier que Rivers United, c'est un peu le tombeur du club africain de Tunisie. Donc, tout est fait pour que les équipes d'Afrique du Nord qui sont en tête du groupe devraient se qualifier pour les demi-finales. C'est en tout cas la logique du football. Mais y a-t-il une logique aujourd'hui dans le contexte des compétitions africaines où les cartes ont été redistribuées, notamment en Champions League?
C'est la question que l'on se pose. Est-ce qu'il y a encore une logique? Eh bien, en attendant, la réponse bien sûr à cette question, on retrouve les 13e Jeux africains qui ont commencé à Accra au Ghana. Élysée, très rapidement, entre autres, il y avait du football féminin au programme avec deux belles affiches, Nigeria-Sénégal et Cameroun-Maroc.
Oui, bien évidemment, on devrait avoir le match entre le Nigeria et bien évidemment qui n'a pas eu lieu. Donc c'est la seconde rencontre qui va démarrer dans quelques instants à partir de 21h entre le Nigeria et le Sénégal, le Cameroun, le Maroc. Ce match n'a pas eu lieu, je le disais. Donc le match Nigeria-Sénégal ce sera à partir de 20h, temps universel. Au niveau des hommes, Yacouba, il faut le dire que l'Angola est en train de dicter sa loi. Deuxième victoire en deux matchs, cette fois contre le Sénégal, 1-0. Le football, ça concerne bien évidemment les catégories des moins de 20 ans. Donc l'Ouganda qui se qualifie dans la poule B, dans la poule A. On aura Nigeria, Soudan du Sud dans quelques instants. Sinon, aujourd'hui, Yacouba, il faut dire que le badminton a déjà donné sa première médaille et c'est allé du côté du Sénégal. C'est allé du côté de ça m'échappe énormément. Donc, c'est dit que quand même le badminton a déjà dégagé sa première médaille d'or ce matin. Donc, la compétition se déroule du côté du Ghana, sur des jolis stades, notamment donc ces Jeux africains. Il faut le dire, ça va permettre à certaines sélections de bien se préparer en attendant les Jeux de Paris qui va démarrer en août prochain.
Bien évidemment, en attendant, bien sûr, ces Jeux Paris 2024. Eh bien, Amdine Sy, des nouvelles de médailles peut-être sénégalaises.
Ah oui, le Sénégal a terminé la compétition en karaté avec une médaille d'argent pour les Lions hein, qui ont été battus en finale par l'Égypte Sud par 2-0. C'est la quatrième médaille hein, remportée par les karatékas sénégalais, car en individuel, Matar Diop en argent, Momodou Fadou Diop et Maïmouna Nia ont déjà gagné des médailles de bronze. En natation aussi, Oumou Diop s'est illustré de fort belle manière en remportant une médaille de bronze au niveau de 50 mètres papillon. En lutte également, le Sénégal a glané une médaille avec Safietou Goudjabi, médaille remportée en bronze dans la catégorie des 62 kilos. En football, c'est la fin, on nous a éliminés.
Merci beaucoup Amdine Sy, merci à Amine Birouk depuis Casablanca, merci à Élisée Mkpatine, ainsi qu'à Jules Valentin Ngoué, merci à vous chers auditeurs d'être restés à l'écoute, merci à Michel Joseph pour avoir réalisé cette émission. Je suis Yacouba Ouédraogo, John Lindon est déjà en studio pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve la semaine prochaine, au revoir.